André Bayon, après la fête. Au lendemain du mariage de leur fille, Prudence, avec le comptable Isidore Drusseau, les Vampin descendirent les premiers de grand matin dans la salle à manger. Suivant leur ordre, la domestique n'avait pas desservi la table et la place gardait le dernier désordre du repas et du départ. Un fort parfum de fleurs traînait, mêlé d'un relent de fruits, d'haleine et de cuisine. Les volets n'étaient pas encore ouverts. C'étaient d'antiques pièces, lourdes comme des portes de citadelle, et percées d'un cœur au sommet de chaque battant. Leur solidité belliqueuse faisait l'admiration du quartier et l'orgueil de Vampin. Il aimait les laisser clos tard dans la matinée afin que chacun les admirât et entretint leur gloire. Par leurs ouvertures pénétrait la lumière oblique du jour pluvieux. Elle se posait sur la nappe où des fruits avaient chu des coupes et où diverses taches vaguement se devinaient. Des verres à moitié pleins semblaient d'énormes rubis, et au centre de la table, une tarte à peine entamée se haussait dans l'ombre, comme une babelle bourgeoise frappée de la foudre, et dressée sur un plat. Les époux avançaient prudemment, se heurtant aux chaises bousculées, des serviettes s'enroulaient aux jambes comme des bêtes blanches et molle, des miettes grinçaient sur le tapis, et leurs âmes, après la fête, étaient tristes et en déroute, comme la salle où ils marchaient en aveugle. Des échos de chansons bourdonnaient dans leurs oreilles. Ils croyaient entendre encore les plaisanteries du farceur qui les avait tant fait rire, et les beaux vers du cousin, un peu gris et poète, qu'ils avaient tant fait pleurer. Du reste, ils avaient mal dormi et leur tristesse s'aiguisait d'une pointe de migraine. Toute la nuit, Madame Vampin s'était énervée, prête à secourir sa fille au bras d'un homme dans la chambre voisine. Bien qu'elle eût veillé jusqu'au matin, la prévoyante mère n'avait entendu ni un gémissement, ni même le bruit d'une fiole qui se débouche et se pose délicatement sur le marbre de la table. Elle en voulait à son gendre de ce calme incongru qui avait empêché les déploiements de ses expériences et de son affection. C'était un manque à toutes les convenances, peut-être même l'indice de passion terrible et contre nature. Songeant ainsi, elle poussa la porte du salon, brutalement, comme si elle eût bousculé l'infâme Drusseau, et une grande clarté pénétra en même temps que l'arôme vieilli des cigares et du café. La servante descendit. Voyant ses maîtres déjà levés, elle se crut en retard et, pour éviter les préprimandes, raconta que les jeunes mariés se levaient. Madame se précipita vers leur chambre, engagea par la porte la conversation qui la rassura et descendit se mettre à l'ouvrage. La bonne lavait la vaisselle, un crayon sur l'oreille, dénombrait gravement comme un caporal ses soldats. Le beau service en porcelaine, les cristaux et les couverts étaient intacts, au grand complet. Oh, il manquait une pince à sucre, un ustensile énorme, un cadeau conjugal. Après de longues recherches, on trouva dans le salon l'appareil bêtement suspendu par une ficelle à l'anneau de la suspension. Personne ne sourit de la farce, car la pince était d'un métal et d'une valeur respectable et de plus un grand souvenir s'y attachait. Monsieur l'avait cueilli comme un fruit à l'espalier, et caressant ses formes massives et lourdes, désintéressé de la besogne, il se prit à songer. Verpin avait un vice, il était luxurieux, et s'en lamentait hypocritement. Il prétendait que les exhalaisons de sa boutique bourrée de ferraille le tonifiaient, lui brûlaient le sang. Il ne comprenait pas comment sa femme, soumise au même régime, n'en partageait pas les ardents effets. À la vérité, la chaste Madame Verpin s'était effrayée des emplexions trop brutales de son mari, et mettant à profit les affres d'un premier accouchement, elle s'était dérobée à de nouveaux contacts, dans la crainte, avouait-elle, d'augmenter une progéniture trop douloureuse. Toutefois, en associée indulgente et bonne, elle avait découvert l'édulcorant à cette sévérité. Vampin eut la permission de dépoter, entre autres girons, ses lèvres. Il promit de le faire secrètement, sans compromettre l'honorabilité de leur firme et le chiffre de leur fortune. Comme il avait l'âme délicate et sensible, il s'engagea même à présenter à son épouse un cadeau modeste pour chacun de ses exercices. Il en était résulté une série de rien métallés sur une étagère à façon du thermomètre où se graduaient en bonshommes de porcelaine, petites tasses et soucoupes, les départements secrets et peu dangereux en somme de Vampin. Lorsqu'un petit meuble était encombré, on en achetait un autre. Pour le reste, puisque ses affaires ne périclitaient pas et que chacun le saluait, Vampin demeurait sans remords. C'était devenu une coutume administrative régulière, comme le paiement une fois la semaine du salaire à des ouvriers. Il partait le soir, revenait de grand matin, la chair débarrassée et la poche alourdie de son don, qu'il appelait agréablement en ex-voto du repentir. Or, un matin de sa vitrine, il aperçut une femme qu'il désira plus que toutes les autres. C'était une servante aux joues roses et savoureuses comme les fruits du pommier en automne. Elle se hâtait et son tablier blanc, élargi sur les hanches, et serré aux genoux, dessinait les inflexions du corps alerte et désirable. Vampin y songea toute la journée et la revit le lendemain, sans oser lui parler, car il craignait le regard des voisins et ne se connaissait à l'audace que dans les ténèbres. Buté dans ce désir unique, comme une mule dans l'ornière, il s'éclaboussa de rêverie, pataugea dans la détresse et reconnut que le chagrin le fouettait avec amour. Il mangeait à peine, rudoyait ses domestiques et passait des nuits gémissant aux côtés de sa femme. Celle-ci, l'ayant interrogé, s'attrista de ce chagrin et résolut de le guérir. Par des promesses, elle sut enlever la bonne à sa maître et la prendre à son service. Dès la première nuit, encouragé par le sommeil complaisant de sa femme, Vampin monta vers la chambre de la fille. La maison était paisible et dans le silence de l'escalier, battait comme un cœur le tic-tac honnête de la grosse pendule du salon. Au dernier palier, l'honnête bourgeois s'épongea le front, puis il poussa la porte. Par la fenêtre, un peu de lune bleuissait les draps du lit. La jeune fille respirait d'un souffle égal avec innocence. Verpin se situa sur elle avec toute l'ardeur de son désir comprimé et de si aphrodisiaques émanations de ses ferrailles. Le lendemain, la malheureuse ne se leva pas. Elle mourut 3 jours après, dans la terreur d'une face apoplectique penchée sur elle et qui la mordait aux lèvres. Lorsque le cercueil sortit de la maison, le commerçant déplora que sa demeure fût devenue un hôpital où des souillons venaient mourir. Ses voisins l'approuvèrent. Il n'eut pas d'autre regret. Et à la suite de cette heureuse conclusion, il donna, gravé d'une date, la célèbre pince à sucre que son épouse avait si bien méritée. Ainsi, songeait-il dans le calme de son âme probe et douce, tandis que sa femme mélangeait d'une main luisante d'innocence les fonds de bouteille pour les sauces futures. Les volets étaient ouverts, les bouquets étalaient leurs pompes blanches devant les fenêtres, la pluie ne tombait pas et un soleil paisible pénétra dans l'intérieur bourgeois, bien rangé, avec ses armoires jolies, son tapis brossé et l'honnêteté de sa table où le café matinal déroulait ses candides vapeurs. En ce moment, Isidore Druso et sa femme descendirent. Ils avaient l'un et l'autre les yeux légèrement fatigués. Verpin le vit et dissimula sous de graves salutations un sourire, car, malgré ses désordres, il savait respecter sa fille et l'honorabilité de son gendre. Comme sur la nappe blanche s'étalaient les tartines blanches et appétissantes, ainsi que les tranches d'âme vierge, la famille s'assit et commença le repas. En sucrant son café, l'heureux beau-père constata que la pince aux jambes massives et raides avait d'étranges gestes dans sa main et songea que le temps était venu de garnir son étagère.